VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Relations entre les États-Unis et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a créé la surprise ce vendredi en décidant de n'expulser personne en réponse à l'expulsion par le gouvernement américain de 35 agents russes après des accusations d'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine par Washington. Les précisions de John Lindon.
Alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, venait de proposer de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Moscou et 4 diplomates du consulat général américain à Saint-Pétersbourg, M. Poutine a joué la carte de l'apaisement en assurant que la Russie ne va pas créer des problèmes aux diplomates américains. Nous n'allons expulser personne, nous n'allons pas tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable, a souligné M. Poutine dans un communiqué. Vladimir Poutine a également rejeté la proposition de M. Lavrov qui prônait le principe de réciprocité tout en soulignant que la Russie se réserve toutefois le droit de prendre des mesures de rétorsion et restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique de Donald Trump. Dans le camp de Donald Trump, justement, Kellyanne Conway, une proche conseillère du président élu des États-Unis, a estimé que l'objectif du président sortant Barack Obama à travers ses sanctions contre la Russie était de coincer son successeur à la Maison-Blanche.
Afrique maintenant, RDC, dialogue national sur la médiation des évêques catholiques, toujours pas d'accord. Alors que la CENCO, la conférence épiscopale catholique du Congo, a annoncé ce vendredi comme le dernier jour de médiation, les signataires et les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur certains points essentiels du document, notamment la primature. La plénière devant sanctionner la fin des travaux initialement prévus en début d'après-midi, aujourd'hui a été renvoyée à 20h, heure de Kinshasa. Retour sur cette dernière journée de discussion et la mise en garde des évêques catholiques avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il ne reste qu'un point de blocage, la question de la primature annoncée à la presse Monseigneur Fridolin Ambongo, membre de la CENCO, qui rassure par ailleurs qu'un accord est toujours possible, alors que les protagonistes, notamment du rassemblement, prédisaient un échec des pourparlers. Quelle ne fut pas la surprise des journalistes d'assister à l'arrivée au centre interdiocésain à Kinshasa des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo pour la cérémonie de signature de l'accord a dit à Top Congo FM l'un d'entre eux. Après une ultime réunion en bilatéral entre des délégués en format 8+8, c'est-à-dire 8 de la Cité de l'Union africaine et 8 du Rassemblement, avaient même commencé à adopter article par article le texte du compromis. Puis, il y a eu ce report. S'ils ne se mettent pas d'accord aujourd'hui, ils n'y arriveront jamais. Demain, on rentre dans nos diocèses, a prévenu un évêque qui reconnaît qu'il y a des cas qui peuvent être réglés avant la signature de l'accord et d'autres par le futur gouvernement, notamment celui de Moïse Katumbi. Depuis plusieurs jours, les négociations bloquées, notamment sur la décrispation du climat politique avec la libération exigée par le rassemblement de certains prisonniers exilés politiques, la gestion des institutions pendant la transition et la refonte de la Commission électorale nationale indépendante. C'est donc la plénière de tout à l'heure à 20h qui va décider de l'avenir de la RDC. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, 2 soldats congolais et 3 miliciens ont été tués ce vendredi dans une attaque contre une position de l'armée congolaise dans l'est du pays. Un groupe de miliciens Mai Mai a attaqué la position des forces armées congolaises, l'FARDC, à Kirumba. Le bilan provisoire fait état de 3 Mai Mai tués, 2 militaires FARDC tués et 4 blessés, a déclaré à la presse Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, où se trouve Kirumba. Le capitaine Makazukai, porte-parole de l'armée congolaise dans la région, a confirmé à l'AFP ce bilan, précisant que les miliciens cherchaient à récupérer des armes et munitions dans les dépôts de l'état-major de l'armée. Les milices Mai Mai sont des groupes d'autodéfense généralement constitués sur une base ethnique. Au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza, dont la réélection en 2015 à un troisième mandat controversé a provoqué une grave crise politique dans le pays, a laissé entendre ce vendredi qu'il pourrait à nouveau se représenter en 2020 si le peuple le demande. Le peuple décide chaque fois qu'il le désire de réformer la constitution, a déclaré le président Nkurunziza à Rutana, dans le sud-est du pays, suggérant ainsi qu'il était prêt à réviser l'actuelle constitution dont l'article 96 prévoit que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. M. Nkurunziza a reconnu avoir promis à l'occasion de sa réélection de ne pas se représenter en 2020, mais cette décision avait été prise en fonction de la conjoncture du moment, a-t-il souligné. Depuis avril 2015, les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le Burundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Mali, retour hier soir à Bamako des 159 Maliens rapatriés de Libye en provenance de Tripoli. Ils étaient bloqués dans le pays alors qu'ils tentaient d'émigrer en Europe. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Bercail sains et saufs, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout j'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Ah, oui, ce soir ici chez moi, ici à Bamako, et Dieu merci.
Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement dès quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako à 18h, je pense à ceux qui sont là-bas. Moi aujourd'hui je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, c'est seulement dit, je pense beaucoup à eux.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, la reconquête de la forêt de Sambisa, un des derniers sanctuaires du groupe djihadiste Boko Haram, représente, si elle est confirmée, une victoire majeure pour l'armée nigériane. Mais ce succès risque aussi de déplacer la lutte contre des djihadistes extrêmement mobiles vers d'autres champs de bataille. Michel Joseph.
Après 7 années de conflits dévastateurs dans le nord-est du Nigeria, les experts estiment que la guerre est loin d'être finie, contrairement aux affirmations répétées du gouvernement et de l'armée. L'insaisissable chef du mouvement, Aboubakar Shekau, a répondu jeudi par une nouvelle provocation. « Nous n'avons été chassés de nulle part », a-t-il affirmé dans une vidéo, promettant de continuer à se battre jusqu'à l'instauration d'un califat islamique. Les insurgés se déplacent sur le lac Tchad pour échapper aux offensives militaires en cours, selon Aboubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l'État du Borno, épicentre du conflit qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. C'est d'ailleurs dans ce labyrinthe lacustre que se sont retranchés les hommes d'Abou Moussab al-Barnaoui, leader d'une faction rivale de Boko Haram, adoubé par le groupe État islamique EI en août.
Syrie maintenant, des affrontements entre les forces du régime syrien et des groupes rebelles ont éclaté ce vendredi près de Damas, la capitale, malgré un cessez-le-feu instauré depuis minuit dans le pays. Le point sur la situation avec Dili Diko.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme en signalant une violation du cessez-le-feu dans la région de Wadi Barada, au nord-ouest de la capitale syrienne. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui, mais dans l'immédiat, il est impossible de savoir qui des belligérants a lancé les hostilités, les deux parties s'accusant mutuellement. Selon le directeur de l'observatoire, Rami Abdelrahman, les affrontements sont sporadiques et s'accompagnent de frappes aériennes menées par des hélicoptères contre des positions de groupes rebelles et de Fateh al-Sham. Fateh al-Sham est l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, autrefois appelée Front al-Nosra. Les régions de Wadi Barada, mais aussi Ain el-Fijé, sont des zones stratégiques. Situées à 15 km au nord-ouest de la capitale, elles constituent la principale source d'eau pour Damas. 4 millions de personnes dans la capitale syrienne et dans ses environs sont privées d'eau depuis le 22 décembre, selon l'ONU.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.